You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Bonsoir à tous et vous êtes en direct comme tous les premiers, jeudi du mois du centre d'animation Saint-Pierre pour une heure d'émission autour des cultures libres. Et on va parler beaucoup jeux vidéo ce soir avec Daniel. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Daniel, tu es développeur de jeux vidéo, mais enfin dans le sens développement informatique, programmation, mais pas que. Tu fais partie du studio Manufacture 43 qui est basé à Bordeaux, Cocorico. Et tu nous parleras de ton dernier jeu que tu as créé avec trois de tes comparses. Voilà, et qui s'appelle Power Rumi. On en a déjà parlé un petit peu là, le mois dernier sur Radio Girol, mais on reviendra dessus un petit peu en plus. Voilà. Nous sommes aussi avec Simage. Bonsoir Simage.
Salut.
Et Isa, bonsoir Isa.
Bonsoir.
Alors, au programme de ce soir, on prend notre petite note. Nous allons bien entendu parler de l'agenda. Nous allons parler, comme je le disais en introduction, de Power Rumi. Nous allons parler un petit peu dans l'actualité, en fait, d'obsolescence programmée, de courriel sécurisé, mais très très rapidement. Nous allons parler aussi de blockchain parce que c'est à la mode, surtout au niveau politique, et de CSPLA, les deux étant apparemment liés. Et vous allez voir, ils nous préparent des trucs vraiment pas mal. Côté musique, nous allons écouter Prince Ringard, Charita Manouche et She-Wolf. Voilà, c'est Radio Girol. Voilà, et c'est toujours en partenariat avec Radio Station Essence. Sauf que je viens de m'apercevoir que nous ne diffusons pas sur Radio Station Essence. Ça y est, bonsoir aux auditeurs de Radio Station Essence. C'est le studio Radio Girol, en direct du centre d'animation Saint-Pierre, avec un peu de retard parce que je ne sais pas pourquoi la source ne se lance pas automatiquement. Et voilà. Alors, Simage, côté agenda, parce que c'est bien sûr toi qui t'y colle.
Ouais, comme d'habitude. En même temps, c'est comme tous les mois, il y a un truc de la bulle et un truc d'Unbi.
Et rien de Girol.
Non, mais Girol, c'est tous les jeudis. Il y a besoin de rien. Donc la bulle, ça sera le samedi 17. Donc c'est samedi qui vient ou le suivant ?
Le suivant.
Le suivant. Le suivant. De 10h à 13h, donc le matin, à la médiathèque de Mérignac, ça sera, je ne sais pas exactement, thématique vidéo libre. Donc j'imagine que ça va nous parler de comment monter ces vidéos avec des logiciels libres. Mais je n'ai pas de précision, mon micro s'en va, il m'embête. Attends. Non, c'était pas là. Si. Aidez-moi à ne pas tout casser. ça veut
si,
pas.
Sinon,
non, mais
tu...
il ne veut pas tenir.
Ah non, c'est là, c'est la petite goupille.
C'est celle-là tu...
Non.
Non. Ça ?
Oui, c'est ça, mais je pense que sinon tu le tiens à la main en fait.
Oui, bon d'accord, ok. Bon, on va arrêter de chercher. Donc pour la bulle, c'est ça. Et Unbi, c'est pour le prochain mois, c'est le premier vendredi du mois d'avril, donc le 6 avril. Les permanences du libre au Petit Pulse à Mérignac.
Alors, on va faire un point direct sur l'actualité, comme je le disais. L'obsolescence programmée, une imprimante réparable avec des réservoirs au lieu de cartouches. C'est toi qui as mis ça sur le pad.
Ouais, j'ai mis ça, mais je te rappelle que j'étais un peu fatiguée, que j'ai dit qu'on n'en parlerait pas.
Alors, ben on va...
Ni de ça, ni des sujets suivants, du coup. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un designer qui a fait une imprimante de manière à ce qu'elle soit réparable.
Alors, il ne l'a pas faite. Ça fait partie de son designé. Projet, mais de diplôme à l'ENSCI. Sous la direction d'un certain monsieur qui s'appelle Erwan Bouroulec. Paul Morin, designer produits et services, est en train de concevoir une imprimante réparable et surtout alimentée par des réservoirs d'encre plutôt que par des cartouches qui coûtent horriblement cher.
Et les réservoirs, tu peux les recharger comme ça.
Exactement.
Alors, pour l'instant, ce n'est pas proposé à la vente. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien. On ne peut pas la fabriquer nous-mêmes. Je trouve que c'est un peu dommage.
Alors, y a
j'imagine qu'il veut essayer de la...
Voilà, il y a effectivement une page pour le projet, pour l'instant, avec un questionnaire en ligne. Je vous invite à aller sur la page du créateur, www.paul-morin.com, et à apprendre du coup un petit peu de nouvelles de temps en temps, parce que ça a l'air plutôt
sympa.
Plutôt sympa,
oui. À voir comment ça évolue.
Et surtout, c'est un énorme pied de nez à certains fabricants d'imprimantes comme Epson qui ont volontairement inclus dans le logiciel intégré même au matériel des systèmes pour justement mettre en panne virtuellement les imprimantes après un certain nombre d'impressions. Voilà. Le principe du coup de l'imprimante de Paul Morin, c'est qu'elle soit simple, que les éléments soient le plus simple possible pour être réparés le plus facilement possible et par l'utilisateur.
Oui, et puis il y a même l'idée que les composants sont des composants faciles à trouver, enfin voilà, qu'il n'y aura pas de risque de fin de stock trop rapide.
Alors, la deuxième chose, c'est le courriel se sécurise. On voit apparaître depuis plusieurs années, face notamment aux différentes déclarations faites par des lanceurs d'alerte tels Edward Snowden, des entreprises qui essayent de nous en mettre plein la vue avec des courriels sécurisés de bout en bout. On a longtemps entendu parler de Proton Mail, mais d'autres s'y mettent, comme l'allemand GMX, qui maintenant propose du courriel sécurisé. Donc c'est une bonne chose. Le fait est que par contre, ce qui moi personnellement me gêne, c'est que quand GMX vous propose de sécuriser le courrier, ils utilisent effectivement PGP, le protocole PGP. Sauf que s'il est question d'envoyer notre clé privée à gmx.de pour avoir du courriel sécurisé, c'est un peu donner les clés de son appartement à la police pour qu'ils puissent vérifier que vous ne vous faites pas cambrioler.
Oui, mais et puis c'est eux qui te proposent de créer la clé PGP, mais du coup c'est dans le webmail, donc forcément on ne sait pas où est-ce qu'elle est sauvegardée.
Voilà, sachant qu'il est privée, après il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail, c'est qu'il est peut-être possible de n'avoir la clé accessible que côté client et qu'elle ne soit jamais transmise au serveur. Mais c'est
il faut vérifier. Là c'est vrai que on n'a pas fouillé plus que ça. Et il y a un troisième acteur là, donc Tunatuta. T'es allé voir ou pas ?
Oui, je suis allé voir Tunatuta, mais j'ai pas eu le temps de regarder ça. Voilà, ça sera peut-être un sujet où on en reviendra un peu plus en détail sur effectivement ces entreprises qui essayent de nous vendre de la vie privée en assurant chiffré de bout en bout tous les courriels et compagnie.
Tunatuta, je vais pas y arriver aujourd'hui, joue en plus sur le côté logiciel libre, etc.
Ce que fait Proton Mail aussi, oui, puisque depuis 2015, le webmail de Proton est censé être open source. Voilà, la dernière petite actu, c'est pour toi Isa, c'est le CSPLA, encore et toujours, qui maintenant bon veut nous créer entre autres un droit voisin pour la presse, hein, ajoutons-y encore un petit peu, mais là qui parle de blockchain pour gérer les droits culturels. Alors c'est quand même assez croustillant.
Ben en fait, c'est un rapport, hein. Pour l'instant c'est toujours pareil, hein. Avec le CSPLA, c'est toujours des rapports, tant que ça en reste là, on va dire que pour l'instant ça va. Qui suggère l'utilisation de la blockchain pour gérer les droits culturels. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser le principe de la blockchain pour pouvoir tracer intégralement ce qui se passe au niveau des ayants droit. Bon, c'est surtout évidemment pour les titres de musique, ça peut être très intéressant. Savoir qui a utilisé quoi, comment ça se diffuse, enfin, bref, avoir toutes les informations au sujet de la circulation numérique de ces œuvres. La deuxième étape serait bien entendu d'inclure la rémunération là-dedans. Et là, ça devient beaucoup moins drôle puisque on pourrait envisager d'avoir une récupération des droits à tous les étages, quoi, à tous les niveaux. Il y a même un passage de l'article qui illustre bien ça, que je vais vous citer. Imaginez un micro placé dans un lieu public, tel qu'un bar ou une discothèque, relié à une base de données. Il reconnaît en temps réel quels morceaux sont joués et cherche leurs ayants droit afin de déclencher automatiquement le paiement de la somme due. Donc là, évidemment, il n'y a pas de possibilité de passer au travers de quoi que ce soit. Et en creusant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte que tous ces gens qui font partie de la gestion du copyright classique, on va dire, sont très très impliqués déjà dans la blockchain. La SACEM a un projet avec l'IRCAM de blockchain pour effectivement récupérer un maximum de choses possibles parce qu'ils considèrent par exemple que YouTube n'en fait pas assez. YouTube n'en fait pas assez pour récupérer les droits, pour pouvoir identifier en fait le droit des œuvres. Donc déjà que la plupart des gens qui utilisent des musiques qu'ils aiment pour illustrer des tutos, ou, tous les gens qui ont peut-être un petit peu de reconnaissance sur YouTube pour tout et n'importe quoi, pour parler de maquillage ou de je ne sais quoi. Tous ces gens-là sont peut-être déjà embêtés à cause de YouTube qui fait déjà de la traque par rapport à ce genre de choses. Mais avec la SACEM et ce genre de blockchain qui va être utilisé par eux, ça sera encore pire. C'est-à-dire que là, ça sera une démonétisation radicale de tous ces gens qui utilisent des musiques d'illustration. On va leur supprimer leurs droits parce qu'eux, ils génèrent aussi du contenu parce que ce sont des créateurs de contenu. Mais à partir du moment où ils utiliseront quelque chose qui est copyrighté, boum, terminé, dégagé, il n'y a plus rien à voir, quoi. Voilà, donc c'est ça qui se prépare. Spotify a aussi sa blockchain, enfin ils sont tous dans la blockchain.
Et en même temps, c'est la mode de la Startup Nation d'avoir sa blockchain.
Voilà, alors c'est la mode. En fait, ce qu'on peut constater, c'est que la blockchain, dans ce cadre-là, c'est en fait un substitut de DRM. C'est un DRM plus, on va dire, puisqu'il a un avantage par rapport au DRM, c'est qu'il anonymise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi exactement, hein, c'est anonymisé bien entendu, mais c'est quand même tracé de A à Z, quoi, on va dire, quelque part, l'usage des œuvres. Donc voilà.
Ça veut aussi pouvoir dire de mettre des micros un peu partout et éventuellement capter des choses qui n'ont pas à être captées.
Ben oui, c'est-à-dire que ça va peut-être amener une redéfinition de qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui est privé, puisqu'à partir du moment où un micro capte quelque chose, on va se retrouver un peu dans le cas de Wauquiez, quoi. Tu vois, donc si t'as un mec qui enregistre, tu tapes la chansonnette comme ça dans un groupe de personnes, moi tu te dis je vais pas payer la SACEM, tu vas te retrouver à payer la SACEM, quoi. Mais bon, c'est un cas extrême, mais bon, quand je lis l'article, c'est déjà presque pris en compte. Donc, c'est magique.
Est-ce que ça voudrait pas dire aussi le côté bénéfique de la chose, la prise en compte de tous ces artistes qui décident de ne pas utiliser la gestion collective?
Alors, c'est aussi quelque chose qui pourrait, effectivement, et je me suis penchée sur la question, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la musique libre, par exemple, ou dans la culture libre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Alors, il y a des choses qui ont commencé à être mises en place, mais c'est vraiment très, très embryonnaire. Et en plus de ça, c'est pas forcément pas forcément éthique, on va dire. Il y a une chose qui a été mise en place par Creative Commons France en collaboration avec une entreprise qui fait de la blockchain, dont j'ai zappé le nom, mais c'est pas grave. Et en fin de compte, cette société, elle met l'accent justement sur le côté verrouillé, enfin en boîte, enfin bref. Donc, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais j'ai cherché, c'était un article de 2016 qui citait cette collaboration. J'ai regardé sur le site en question, il n'y a rien qui fait référence à Creative Commons. Donc, ça a été peut-être annoncé, finalement pas utilisé, j'en sais rien. L'idée, c'est que ça permet d'obtenir des statistiques que ne fait pas, par exemple, ce qu'on n'a pas avec les Creative Commons. On a effectivement... une lecture machine par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui permet aux machines de dire quelle est la licence utilisée, mais il n'y a pas une comptabilité, il n'y a pas un suivi, il n'y a rien qui permet ça. Alors le fait de coupler ça avec une blockchain, ça me permettrait effectivement de pouvoir avoir un système qui permette aussi une forme de rémunération ou tout simplement de savoir qui fait quoi avec les œuvres et donc de manager le droit moral, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant en partie, mais ça pose aussi tout un tas de questions par rapport à la centralisation des données. Parce que même si c'est anonymisé, il y a quand même qui fait quoi, quelles sont ces sociétés qui gèrent la blockchain, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière.
C'est surtout que si on parle de la blockchain, par exemple, du Bitcoin ou d'autres monnaies, elles sont réparties entre tellement d'ordinateurs dans le monde et réparties en fait, appartenant à des entités totalement différentes qu'on peut dire, oui, c'est quand même relativement fiable. Si la SACEM gère sa propre blockchain qui est gérée sur ses propres serveurs, rien n'empêche de la falsifier, du coup.
C'est ça, voilà. On ne sait pas trop qui va faire quoi. De toute façon, là aussi, eux aussi, ils en sont au début, mais ils sont quand même très, très bien lancé sur l'affaire, quoi. Dire Spotify a déjà aussi lancé ça, quoi. Donc à suivre de très près, quoi.
Exactement, on y reviendra. Je vous propose une petite pause musicale, ensuite nous allons parler jeux vidéo. Donc en pause, je prépose Prince Ringard, La Gueule dans le Rétro.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Les chiens m'attendent sur le trottoir, vieux punk déguisé dérisoire. Quoi
parfait pour le dernier mélo. J'ai peur de ma gueule dans le rétro. Y'a du soleil chez les pommiers, de la fantaisie chez les camés. Je retourne aux tarpes et à la bière, même si je n'ai plus de partenaire. Une bonne branlette me suffira, tout ça bien loin d'Al-Qaïda. J'évite ma voix de faux crooner pour partout et tout l'univers. J'irai graver mes initiales sur la belle pierre dominicale, le monument dédié aux morts. Silence car le soldat s'endort. Je serai grand, je serai très propre, je serai le plus beau, je serai au top. Je pisserai dans tous les béniquiers, je dégueulerai ma variété. Ce sera la fête chez les babos, je l'aurai dans le cul, je l'aurai dans l'os. Maquillé comme une vieille putain, je vendrai mon corps au sacristain. M'attendent sur le trottoir, vieux punk déguisé dérisoire. Parfait pour le dernier mélo, j'ai peur de ma gueule dans le rétro. Y'a du soleil chez les paumés, de la fantaisie chez les camés. Je retourne au tarpé à la bière, même si j'ai plus de partenaire.
Vous êtes bien en direct depuis le studio Radio Girolle au centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. Nous sommes toujours avec Daniel, Simage, Isa et Antoine. Salut Antoine.
Il n'est pas vraiment là.
J'ai pas vraiment de micro en face, hein, mais bonjour à tout le monde.
Ni de casque.
Ouais, il pianote en fait, il fait le live tweet.
Il est là, mais il n'est pas là.
Un cinquième casque. C'était bien le cinquième casque. D'ailleurs, il y en a un là.
Il y en a un là, ouais, mais j'ai pas de.
Non, Antoine,
sinon, il faut aller l'autre côté, dans la pièce, dans le studio à côté, il y en a. Voilà.
Okay.
Alors, nous allons, comme je l'annonçais en introduction, parler jeux vidéo. Nous allons parler de Powerumi, c'est ça, je le prononce bien.
Bah moi, je le prononce Powerumi en général.
Powerumi. Mais... Oui, c'est vrai, si le U se prononce à l'espagnol, en fait.
C'est un nom qui est... C'est un mot inventé, mais c'est inspiré de mots quechua. Donc, bon.
Voilà. Donc, Powerumi est un shoot'em up un peu old school qui pourrait faire penser un petit peu dans l'esprit à Ikaruga. Voilà, où vous êtes une traître, parce que qui pilote un vaisseau.
Une traîtresse.
Excusez-moi, je parle la France pas très bien. qui pilote un vaisseau qui apparemment a sa propre existence aussi, puisque dans un niveau, il lui parle, je crois.
Oui, faut plus s'avancer dans le jeu pour comprendre ce qui se passe. L'histoire est assez tordue, assez alambiquée.
Voilà.
En fait, en mode facile, on peut pas aller au bout et on peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. C'est seulement en mode normal et en mode difficile qu'on voit la fin et la vraie fin.
Voilà. L'héroïne, en tout cas, est très jolie, vraiment. Ça sort des canons, oui, alors elle est très jolie. Et en plus, laisse-moi finir, parce que je te vois venir. Voilà. Et ça sort des canons de l'héroïne féminine qui est souvent dévêtue. Très, voilà. Là, on a une jeune fille qui est fluée avec un très joli visage et qui est très habillée. Voilà.
Ouais, on n'a pas fait. On est inspiré des shoot'em up japonais, mais on ne s'est pas inspiré des styles des jeux japonais. Ça... Parce que là, c'est des gamines de 12 ans maintenant dans les shoot'em up, c'est un scandale.
Voilà. Voilà. Donc, comme je disais à Daniel tout à l'heure en antenne, alors c'est moi qui ai testé le jeu, puisque aucun autre Girolien l'a acheté. Et puis, je pense qu'il, mis à part notre ami Strikor, qui est en ce moment même au SCAL 16X en Californie, donc grosse conférence autour des logiciels libres, et qui écoute présentement une conférence avec System 76. Ça, c'était le petit clin d'œil. Il n'y a pas de grands joueurs ici. Donc, j'ai acheté le jeu. Je ne suis pas un grand fan des shoot'em up. Le dernier shoot'em up auquel j'ai joué, je pense que c'était Nier Automata, qui n'est pas vraiment un shoot'em up, mais qui a une petite partie shoot'em up qui est assez facile.
J'ai l'impression que Nier Automata est en train d'amener pas mal de monde vers les shoot'em up, en fait, justement à cause de ces phases
qui sont très très sympas.
Ces phases quoi?
C'est des phases de shoot'em up, justement. C'est un shoot'em up un peu en 3D. Ça ressemble pas mal à ce qu'a fait Game Makers sur Fury. C'est un studio montpellierain.
Ouais.
Où ça se voit que c'est complètement inspiré shoot'em up, mais c'est pas vraiment un shoot'em up parce qu'on a vraiment un personnage. On peut sauter, on peut faire plein de trucs.
C'est un jeu à la troisième personne, Nier Automata, où tu, justement, avec une héroïne qui, elle fait 16 ans, là, pas 12, qui est pas très bien vêtue, qui est pas beaucoup vêtue et qui à grands coups d'épée, qui déboîte une armée de robots, et t'as des parties où tu joues avec un avion en shoot'em up vu du dessus.
Parce qu'il y a des parties avec un avion aussi. Parce que moi, j'avais vu les parties où vraiment elle est à pied et elle tourne autour du boss, et il y a des patterns de balles monstrueux qui ressemblent typiquement à des shoot'em up aussi.
Mais il y a aussi, notamment quand tu commences le jeu, tu commences en avion.
Ok, ça j'avais pas encore vu.
Voilà, et c'est un très beau jeu. Voilà, c'est le dernier shoot'em up que j'ai joué. C'est pas vraiment un shoot'em up. Je suis pas un fan du genre. Par contre, j'ai adoré la direction artistique, même si j'ai effectivement l'impression de jouer à un jeu. Il est moins tape à l'œil, disons, que les jeux que les jeux des gros studios et certaines productions indépendantes qui mettent le paquet. Mais la direction artistique est, de mon avis, très solide. Ça fait vraiment penser au domaine un peu Inca, peuple natif d'Amérique du Sud. Et la particularité, sans essayer de vous spoiler, c'est que vous avez trois armes différentes dès le début. Il n'y a pas de level à augmenter sur son vaisseau, etc., etc. Et en fonction des armes que vous allez utiliser, de leur couleur, vous allez avoir certains effets sur les ennemis qui sont aussi de trois couleurs différentes. Soit vous allez gagner des points de vie si vous tuez un certain type d'ennemi, par exemple les rouges avec l'arme bleue. Si vous tuez les rouges avec l'arme verte, vous allez les tuer plus facilement parce que voilà. Et si vous les tuez avec l'arme rouge, vous allez gagner de la vie, enfin regagner de la vie que vous avez perdue précédemment. Donc ça nécessite de mémoriser effectivement les touches de la manette par cœur, et surtout de tuer les bons ennemis avec les bonnes armes, tout ça dans la précipitation pour, par exemple, si votre barre de vie est un peu à la ramasse, de pouvoir récupérer tout ça. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de sauvegarde, c'est le principe même du jeu, c'est qu'on commence depuis le début. Et que les boss sont quand même bien costauds. Ça fait aussi plaisir d'avoir des jeux un peu difficiles et que l'on ne finit pas à la troisième vitesse.
Voilà. On a vraiment essayé d'avoir l'esprit arcade, donc d'avoir un gros challenge à chaque partie.
Voilà. Comme je disais à Daniel, c'est un jeu auquel je crois qu'il est à un peu moins de 20 euros sur Steam.
17 euros,
c'est vraiment un jeu qui vaut franchement 17 euros. C'est un jeu auquel moi, par exemple, j'ai plaisir de jouer quand je commence ma session jeu. Là, par exemple, ce soir, je vais aller m'installer devant mon PC jeu, je vais l'allumer, je vais faire une petite partie de 10 minutes de Power Rumi, peut-être un niveau en solo, parce qu'une fois qu'on a commencé un monde, on peut y jouer en s'entraînant dessus. Donc, pas pouvoir s'entraîner sur un niveau pour ensuite faire deux ou trois petites parties arcade et essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, en mode facile, parce que pour l'instant je suis un peu à la ramasse. Et voilà, c'est un jeu qui est plaisant à jouer, par petite section. Alors on n'est pas là pour parler effectivement du jeu en lui-même, on va essayer de parler du tout de son développement. Déjà, la première question, qu'est-ce qui pousse un studio indépendant à proposer son jeu sous Linux?
Dans notre cas, c'est tout simple en fait. Moi, ça m'aurait ennuyé que mon jeu soit pas disponible sous Linux, tout simplement parce que ça doit faire depuis, je sais pas, 2000 et quelques que j'ai commencé à utiliser Linux. Pendant très longtemps, je l'ai utilisé en bureau. Je ne sais plus le cas maintenant. Depuis 10 ans en fait. Mais je l'utilise toujours en serveur et souvent, quand même, j'aurais envie d'y revenir, quoi. Et je voyais surtout pas spécialement de raison de pas le proposer sous Linux, grâce à la facilité qu'il y a de porter le jeu sous Linux, parce que quand on fait soi-même le moteur du jeu, C'est faisable, mais c'est plus compliqué. Gérer tous les problèmes avec toutes les cartes graphiques qui existent, vaut mieux avoir une équipe de développement dédiée à régler ce problème-là. Et du coup, bah, c'est un peu comme si on avait sous-traité ce problème, vu qu'on utilisait le moteur Unity 3D. On n'avait pas trop de raisons de le sortir sous Linux. Ils ont fait vraiment un super boulot à ce niveau-là. J'ai été extrêmement surpris, en fait.
Parce que c'est justement la question qui revient beaucoup. On a deux écoles de gens qui jouent sous Linux. La première école dit « Ouais, c'est quand même bien compliqué de créer un jeu sous Linux. Ça ne se résume pas à, même pour des outils comme Unity 3D, ou l'Unreal Engine, à cliquer sur exporter pour qu'il nous fasse un exécutable Linux. Il y a aussi des adaptations à faire. Et il y a l'autre école qui dit, bah non, on a juste à cliquer sur le bouton et ça le fait.
Bah, dans notre cas, ça a été quasiment ça. J'ai eu deux bugs de shader juste parce que j'utilisais pas les macros fournis par Unity pour régler le problème en question. Dès que j'ai utilisé un macro, ça marchait. Il y a un cas où le comportement est différent sous Mac Linux que sous Windows, c'est quand on joue en plein écran, mais avec une résolution qui n'est pas la même que celle de l'écran. Sous Windows, ça fait des bandes noires, sous Linux, ça étire l'image. Moi, je ne sais pas vraiment quel est le bon comportement que le jeu est censé avoir. En fait, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, surtout que la gestion des écrans sous Unity est très bizarre. J'ai fini par avoir un truc qui marche à peu près correctement, enfin un truc qui me semble cohérent, mais c'est bizarre.
Alors, sachant que, justement, tu connais sûrement, parce qu'en plus, je sais qu'il vous a interloqué sous Steam, tu connais Liam de Gaming on Linux, qui a posté un sujet.
Oui, il avait eu un problème. Un problème. Il est le seul à avoir eu un problème. J'avais essayé de suivre un peu pour régler son problème, mais j'ai pas eu de réponse.
Alors, il connaît un bug sous Unity qui est assez bizarre. C'est le bug de l'écran noir. Il y a des jeux, en fait, beaucoup de jeux Unity qui ont je ne sais pas pourquoi, le problème dû en plein écran de l'écran noir. Donc, c'est, voilà, le moteur a peut-être un défaut et ce n'est pas le premier, ce n'est sûrement pas le dernier. Mais si on revient à nos moutons, donc pour PowerUMI, ça a été assez simple de porter le jeu sous Linux.
Oui, ouais, bah, il n'y a eu que ça. Et même, on utilise un plugin pour la gestion des manettes, qui s'appelle Rewired. Ça nous a tout géré exactement comme sous Windows, pareil sous Mac. Et. En fait, j'ai vraiment été surpris de l'absence de boulot que j'ai eu à faire. Quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ce message-là quand on avait fait la mise à jour Linux. On ne les a pas sortis en même temps parce que voilà, on ne savait pas. De notre côté, on ne voyait aucun problème, mais est-ce que les joueurs, eux, ils allaient en découvrir parce qu'ils ont du matos différent, etc. Et donc, en fait, dans le message dédié à la mise à jour Linux pendant notre Early Access, j'ai mis. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de développeurs qui ne sortent pas leurs jeux sous Linux quand on utilise Unity, Unreal, je ne sais pas, mais en tout cas avec Unity, c'est simplissime. Quoi.
Alors, la communauté Linux a quand même beaucoup moins de jeux Unreal Engine que de jeux Unity. Il y en a beaucoup, beaucoup, et de plus en plus, effectivement. D'après, pareil, alors n'étant pas moi-même développeur, je ne peux que émettre des suppositions ou me baser sur la parole des autres. Unreal a l'air beaucoup plus compliqué et beaucoup moins facilement compatible avec Linux.
Alors, le moteur en lui-même est plus compliqué. Unreal, c'est un moteur qui vient du monde AAA, on va dire, où ils ont vraiment des usines à gaz qui font des trucs absolument exceptionnels. Enfin, je me souviens de quand j'ai démarré PowerUMI, au tout début, c'était même un peu avant en fait, mais j'avais encore mon ancien PC, je démarre Unity, je me mets à bosser, il n'y a aucun problème, ça roule. Je lance Unreal, déjà ça m'a pris plus de 2 heures pour le compiler. Ensuite, il a pris 1 quart d'heure à se lancer, mon PC était complètement frisé, et au moment où j'ai fait créer une nouvelle scène de base, j'avais une table et 2 chaises, mon PC était à genoux, ça a pris une demi-heure à la créer, mais elles étaient belles.
D'ailleurs, pareil, si on fait l'analogie, les jeux AAA qui utilisent le moteur Unreal, alors je vais surtout parler du moteur Unreal Engine 3, il y en a quelques-uns, notamment. Tu connais sûrement la série des Borderlands qui a été. Alors, le 2 et le 3 ont été portés sous Linux, mais par une boîte extérieure, par Aspyr Media et non pas par le studio lui-même. Et on a l'impression que les jeux Unreal Engine ou les jeux un peu plus compliqués, comme par exemple Tomb Raider, la version 2013 qui a été portée, ou Mad Max qui a été portée par le même studio anglais qui est Feral Interactive, là, ils font appel à une boîte qui fait carrément le portage et qui s'occupe de faire le portage Linux.
Bah, entre Unreal 3 et Unreal 4, il y a vraiment une très très grosse différence. Le 3, c'était un moteur plus lourd encore, je pense. Le 4 est une réécriture d'une bonne partie du système. Et ils ont évolué complètement dans des directions différentes. Ils ont essayé de faire de la gestion de tout ce qui est d'appareils mobiles, tablettes, etc. Donc il est quand même devenu... Enfin, l'éditeur est quand même extrêmement lourd, mais le moteur tourne quand même beaucoup mieux et sur beaucoup plus de plateformes. Je pense que ouais, voilà, ils ont appris de toute l'expérience qu'ils ont eue avec le 3, le 2 et le 1 qu'avant, quoi. Et surtout des choix différents, des cibles différentes dans ce qu'ils voulaient faire, quoi.
Voilà. Rappelons quand même que l'Unreal Engine existe depuis la fin des années 90 et qui s'appelle Unreal Engine parce que le premier jeu sorti sur ce moteur s'appelait Unreal et c'était Epic qui était encore un vrai développeur de jeux, enfin quoi qu'ils sont toujours, mais qui voilà, c'était leur moteur maison à la base et qui Unreal avait cristallisé les foules parce qu'il avait notamment en gestion des lumières volumétriques à l'époque, les brouillards. C'était un jeu relativement magnifique pour l'époque.
Ouais, et puis j'ai lu une interview assez exceptionnelle aussi, il y a quelques temps, du développeur original d'Unreal qui expliquait que tous les trucs qui font qu'Unreal est complètement génial, c'est juste parce qu'en fait, il voyait le moteur de John Carmack, ID Software, je sais pas comment il l'appelle, c'est le moteur de
ID Tech.
Quake, quoi. ID Tech, oui, c'est comme ça qu'ils appellent maintenant. Et il voyait toutes les prouesses techniques incroyables de ce moteur et il se mettait à faire la même chose, sauf que lui, il faisait tout en temps réel. Et il savait pas que dans le moteur d'ID Software, c'était pas le cas, ça calculait pendant des plombes avant.
Oui, notamment donc, les ombres qui étaient précalculées. Ouais,
voilà. Et donc du coup, il a fait un moteur incroyable et enfin, il a fait des prouesses qui étaient demandées par personne, juste par lui qui avait envie de faire un truc et qui pensait que ça devait être comme ça. Alors que ça n'existait pas encore.
Si on revient du coup à PowerUMI, est-ce que tu as beaucoup de contacts avec la communauté Linux ou de retour par rapport à ton jeu ?
Ouais, c'est un des trucs qui a été assez plaisant en fait. Les joueurs de Linux sont plutôt sympas. Il n'y a pas eu beaucoup de bugs en fait du coup, mais ils ont quand même, on a quand même eu un contact sympa quand on avait le moindre truc à régler. Je me souviens de Maenu du forum schmup.com qui avait eu un problème de son et j'ai eu assez facilement des allers-retours avec lui pour faire un petit réglage qui a permis que le jeu tourne bien sur son PC.
Alors la légende veut que justement un utilisateur Linux sait se débrouiller, connaît des outils comme GDB par exemple, ou est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'un utilisateur Linux est techniquement plus pointu et donc peut rapporter des bugs avec plus de précision ?
Je pense que ouais. Après, peut-être pas. Enfin, si c'est un jeu open source, pourquoi pas utiliser GDB ? Ouais, mais même moi, j'utilise pas GDB avec PowerUMI pour débugger PowerUMI avec Unity. En fait, on se connecte juste depuis le PC sous Windows avec Visual Studio, comme d'habitude en fait. Et ils ont tout fait en réseau. Ça se débug à peu près bien.
Mais du coup, est-ce que tu as des Linuxiens qui te rapportent des... Quels sont les... Est-ce que la légende dit vrai ? Est-ce que en gros, est-ce que les Linuxiens sont plus à même de créer des rapports de bugs complets ?
J'ai eu un rapport de bug l'autre jour. J'ai juste posé une question toute simple. Je sais plus c'était. Mais c'est quoi ton CPU, ton GPU, un truc comme ça. Il m'a tout de suite sorti un log monstrueux avec une quantité de détails incroyables. Je voulais juste savoir le GPU. Et du coup, oui, bah, j'ai pu très précisément s'il y avait un truc qui était différent. Enfin, ça m'a mâché toutes les questions que j'aurais normalement eues ensuite, en fait.
D'accord. Alors, dernier point, peut-être que tu peux pas en parler, mais au niveau des statistiques de vente, quelle est la part de Linux par rapport aux autres plateformes ?
J'étais en train de me demander si je pouvais regarder vite fait sur mon téléphone pour le savoir exactement. Je sais que c'est supérieur. On a plus de joueurs Linux que de joueurs Mac. Je crois pas qu'on ait une part énorme de joueurs de Linux, mais on en a quand même. Enfin, c'est pas inexistant. Il y a quelques mois, j'étais tombé sur un tweet assez marrant. Quelqu'un qui avait posté un screenshot des stats qui sont publics sur Steam de la part de marché des joueurs Windows, Mac, Linux, et puis il y a plein d'autres statistiques en fonction des processeurs, des graphiques, tout. Et dedans, il y a le truc à la mode depuis 3 ans, la VR. Et on voyait le nombre de possesseurs d'Oculus, de Vive, de machin, de tout. Et quelqu'un a répondu à ce tweet avec un autre qui disait « C'est marrant, il y a plus de possesseurs, il y a plus de joueurs sous Linux que de joueurs en VR tout court. » Alors que c'est la mode, la VR, quoi. Et donc, du coup, ça vaut peut-être plus le coup de sortir un jeu sous Linux que de faire un jeu en VR.
Surtout si, comme tu le dis, le debug a été assez simple et puis l'export depuis Unity est plutôt bien fait.
Ouais, hyper surpris, quoi.
Alors, on attend un autre jeu Linux d'un autre studio bordelais qui, je pense, est un peu plus gros que Manufacture 43, c'est Motion
Surtout
Twin.
Beaucoup plus vieux.
Voilà. J'aurais juste voulu faire une petite pause musicale entre plein de questions. Est-ce que c'est faisable ?
Oui, tout à fait. On peut s'écouter Charita Manouche parce que sais que tu aimes bien. Donc on reviendra après, on parlera encore de Manufacture 43 et du jeu Power Rumi. En attendant, je vous propose Charita Manouche, Beyond the Universe sur Radio Girol.
Planets
Et nous voilà de retour, c'était Charrette à Manouche, un petit peu de musique calme. Alors, nous sommes de retour avec Daniel, toujours avec Simage et avec Isa. Vous pouvez aussi poser vos questions, d'ailleurs.
Non, mais on écoute religieusement, c'est super intéressant, parce que c'est vraiment la première fois, je crois, qu'on a un développeur de jeu qui vient discuter
c'est
de
trop
ça,
la classe.
Ça. C'est, non, c'est bien.
On va parler un peu plus en détail, du coup, de Manufacture 43. Donc, jeune studio, depuis combien de temps existe-t-il ?
En fait, il existe depuis février 2017. Le jeu, on avait commencé à bosser dessus en janvier 2016. Mais ça fait quasiment 10 ans qu'on fait des jeux vidéo dans d'autres studios, en fait.
Voilà, j'ai vu que... C'est... Alors, j'ai regardé, hein, parce que du coup, on peut accéder depuis le site de Manufacture 43 à vos différents sites web. On peut accéder à vos CV, c'est fabuleux. C'est là que j'ai vu que, que tu étais intéressé par la démo scène.
Oui.
Voilà. Voilà, du coup, c'est quoi Manufacture 43, c'est trois copains qui ont décidé de se réunir pour faire du jeu vidéo alors que vous travaillez tout
seul.
Alors,
vous êtes déjà du jeu vidéo. En fait, on a tous les trois fait... Alors, donc quand on va sur le site de Power Me, on voit trois têtes en gros en bas du site. C'est l'équipe principale et c'est Manufacture 43. Et les autres qui sont en dessous, c'est des potes qui nous ont aidés... Enfin, on l'a engagé quand même en freelance, notre musicien, mais sinon, c'est des potes qui nous font juste des coups de main, des gros coups de main. C'est pour ça qu'on les a mis comme un en bas quand même. Et donc, on est tous, sauf Alexandre Chaudret, on a tous fait l'Engmin, une école à Angoulême de jeux vidéo. Charles et moi, on était ensemble, on était dans la même promo. Alex, il était dans deux promos après, je crois. Et en fait, c'est un peu comme le gameplay de notre jeu qui se croise dans tous les sens. On s'est complètement croisés. C'est-à-dire que Charles et moi, on est partis bosser ailleurs après l'école. Mais Charles a rencontré Alex quand il faisait son stage de première année. Ils y bossaient dans la même boîte, en fait. Et du coup, des années plus tard encore, moi, j'étais donc à Sobo, à Bordeaux. Charles est venu et un mois après, mais par pur hasard, Alex est venu aussi, alors qu'il bossait en Angleterre à cette époque-là, et comme s'il avait envie de rejoindre sa copine, quoi. Donc on s'est mis à manger sur les quais tous les midis, voilà, normal, quoi. Et puis on a commencé à discuter de monter un truc et de faire des jeux ensemble, quoi.
D'accord, d'où Manufacture 43.
Ouais.
Pourquoi d'où Manufacture 43, j'ai pas compris moi le lien entre ce que
c'est des copains qui mangent en gros c'est des copains qui mangent ensemble sur le quai, qui se connaissent sur les quais de Bordeaux, qui se connaissent depuis 10 ans, qui font à leur manière
je voulais dire d'où Manufacture 43, donc d'où vient ce Manufacture et ce 43, tu vois, j'ai cru que ça voulait dire ça.
Oui,
non, mais tu faisais le lien comme ça, je dis bah non, je vois pas là, il a pas parlé de 43, 42.
Le Manufacture, c'est pour le côté c'est l'idée qu'on voulait donner des petites mains qui font des trucs. La Manufacture aujourd'hui, c'est surtout pour la joaillerie et des tas de trucs comme ça hyper précis et super travaillé. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait faire. C'est l'idée, enfin sans y aller parce qu'on n'a pas le budget non plus, mais l'idée du triple I en fait, c'est ça, c'est l'antithèse du triple A, c'est le triple I, c'est le jeu indépendant hyper bien fait et c'est ça qu'on vise à faire. Le 43, on a 43 raisons.
D'accord. On va pas les écouter ce soir. Je pense qu'on n'est pas. Voilà,
mais apparemment, votre nom avant, c'était Trois Pintes. Ça, c'était pas mal.
Ah
aussi.
Oui, mais alors bien trouvé ça. Ça, c'était le nom avant qu'on trouve un nom officiel. Moi, j'aimais bien Trois Pintes.
Et ça parle à tout le monde en plus.
Ceci
étant dit, je trouve que Manufacture 43, ça claque pas mal aussi. Voilà. C'est effectivement, comme tu dis, ça fait artisanal, ça fait, ouais. On pense effectivement les manufactures à la fin du 19e siècle qui se montaient, qui étaient capables de faire des superbes tissus, etc.
D'ailleurs, c'est dans ces années-là qu'ont été développés le concept des scopes, et à la base, on voulait monter en scope. On n'a pas pu le faire pour des raisons de budget, mais c'était l'idée, c'est peut-être un jour de transformer la boîte en scope.
Et alors, du coup, peut-on vivre du jeu vidéo indépendant ?
Dans notre cas, non.
Donc
non, oui, on peut en vrai. Il y a plein de studios en France qui le prouvent. Pour ce qui est de Power Me, là, clairement, on n'aura pas réussi notre coup. On n'aura pas transformé. Donc, l'avenir au niveau de Manufacture 43 est très compliqué. Même si, bon, on va voir ce que ça va donner au cours de cette année, parce qu'on va quand même sortir le jeu sur les consoles et peut-être que ça marchera mieux. Mais le marché sur Steam depuis août dernier est devenu absolument horrible. Parce que avant ça commençait déjà à être chaud. On voyait déjà ces statistiques qui tombent de... Il y a autant de jeux qui sont sortis en 2016 que entre la moitié de 2015 et le début de Steam. Il y a eu autant de jeux qui sont sortis en genre 3 mois en 2017 qu'en 2016. Et en fait, là, depuis août, avec Steam Direct, on peut sortir... N'importe qui peut sortir son jeu moyennant 100 euros. Enfin, 100 dollars. Et du coup, on est passé, c'est-à-dire que genre, le maximum qu'il y avait, c'était genre 200 ventes en une semaine pour Noël avant. Maintenant, c'est toutes les semaines. Donc du coup, la capacité de Steam à mettre en avant un jeu à sa sortie est d'environ 30 minutes maintenant. Donc c'est super dur d'avoir de la visibilité et les journalistes sont saturés, les youtubeurs sont saturés, les streamers sont saturés, tout le monde est saturé de jeux qui sortent. C'est hyper dur de faire le tri dans tout ce qui sort et on n'a pas réussi pour la sortie Steam.
Voilà, c'est quelque chose que l'on peut partager, enfin que je partage, parce que quand j'entends parler d'un jeu, j'en ai découvert deux, du coup un auquel j'avais déjà joué, c'est la suite, c'est The Fall Unbound, peut-être que tu as déjà compris. C'est un jeu assez sympa avec une réflexion. Le deuxième volet est une réflexion sur la singularité, l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on lui donne. C'est vraiment très très cool. Ou effectivement, si on ne connaît pas le jeu, ben je le vois pas apparaître dans les premières pages de Steam où il me le propose pas. Même dans les sorties récentes, hein, qui sont pas encore sous Linux, qui sont pourtant moins nombreuses. Et l'autre jeu auquel je joue en ce moment, justement après avoir fait ma petite partie de Power Rumi pour me mettre en forme, c'est Crossing Soul, développé par des Espagnols de Foratic, et c'est pareil, si je sais plus quel site n'en avait pas parlé, j'aurais jamais découvert le jeu, et pourtant je passe une petite demi-heure en général à regarder les nouveautés, à me tenir au courant par jour.
Mais donc, la visibilité, c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est un métier vraiment à part entière maintenant, complètement.
Voilà. D'où effectivement la difficulté pour un petit studio indépendant qui n'a pas les moyens de se payer, je dirais, une personne pour faire la relation presse ou le marketing de
se retrouver. Pour la sortie console, je suis en train d'essayer de trouver un deal sympa. C'est dur.
Ceci étant dit, si on parle console, l'e-store pour l'instant de la Nintendo Switch n'est vraiment pas saturé et on peut vraiment prévoir, je le sais parce que je suis un joueur, hein. Et du coup j'ai une Switch à la maison et on peut encore espérer un petit peu de visibilité parce qu'il sort encore pas beaucoup de jeux sur cette console.
En fait, ça vient de plus en plus. J'ai peur de la saturation. En fait, j'ai peur de réussir à faire mon portage avant ou après. mais on va voir. Mais je pense que ce sera jamais de toute façon aussi saturé que sur Steam parce que sortir son jeu sur Switch, ça coûte... Financièrement, ça ne va pas nous coûter grand-chose. Un kit de développement, ils en ont un, ils en ont deux, il y en a un gros et un petit. Le petit est suffisant. Il coûte 430€, donc franchement, ça va. Le principal problème qu'il y avait l'année dernière, c'était pour réussir à en avoir un, parce que je connais une équipe qui a sorti son jeu avant d'avoir reçu son kit de développement qu'ils avaient commandé. Ils ont attendu des mois parce qu'ils étaient en rupture de stock. Mais sinon, en fait, c'est 430€. Mais derrière, c'est tout le développement qui est compliqué parce qu'il faut porter le jeu sur Switch. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué que de porter son jeu sous Linux, par exemple, avec Unity. Parce que bien qu'Unity fasse l'essentiel du boulot, le même boulot qu'ils font sous Linux, il faut quand même rajouter toute une gestion des utilisateurs, des manettes, des services en ligne, tout ça. C'est le genre de boulot que j'ai eu à faire avec Steam aussi. Mais... avec Nintendo derrière, ou avec Sony et Microsoft, c'est pareil. Derrière, ils testent les jeux et ils vérifient que, déjà que ça ne plante pas, que tout fonctionne parfaitement, que tous les services sont implémentés correctement. J'ai imprimé genre 12 pages de guideline et c'est écrit petit pour la Xbox. J'ai pas réussi à imprimer avec Nintendo, donc je peux pas savoir combien ça va être page. Mais c'est vraiment des guidelines très lourdes qui font que en fait, les jeux consoles sont aussi bien peaufinés. Il n'y a jamais de problème technique quoi, sur un jeu console. Et encore, maintenant, ça se relâche un peu depuis quelques années. En fait, Nintendo a resserré la vis, je crois, depuis Noël.
Alors moi, j'avais une question parce que vous parlez beaucoup de Steam, mais vous parlez pas de GOG. Quel est le fait qu'on soit présent sur Steam, présent sur GOG?
Déjà, c'est plus accessible que... Enfin, ils prennent plus de monde que GOG. GOG a tendance à faire une sélection. Nous, ils nous ont pas choisi avec un message d'environ 10 lignes qui nous disait qu'ils avaient joué au jeu et qu'ils avaient trouvé ça bien et tout, mais que non. Ce que j'ai bien aimé dans le message, c'est qu'il y avait marqué qu'on avait plein de power-up dans notre jeu et que c'était cool, mais il n'y en a aucun dans le jeu, donc j'ai pas compris. Soit ils se sont trompés, soit ils sont juste saturés. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment trop de jeux qui sortent sur PC.
Trop de demandes.
Mais donc voilà, ils ont fait le choix de pas prendre Power Rumi. Donc ensuite il y a ça, mais des stores sur PC, il y en a des dizaines. Il y a celui de Kongregate qui arrive bientôt là, qui s'y mettent aussi. Kongregate, c'est un site spécialisé dans les jeux en flash.
D'accord. Okay.
Et là ils se lancent dans les jeux sur PC normaux, comme Steam, faire un store de plus.
D'accord.
En fait, tous les stores réunis, en général, ça équivaut à même pas 5% des ventes par rapport à Steam. Steam a une part de marché monumentale et personne n'arrive à le détrôner, en fait.
D'accord.
C'est parce que compte. C'était le premier aussi.
Oui, ouais.
Et enfin, c'est ça où son fondateur, Gabe Newell, a eu du nez, c'est qu'il a de suite proposé son hit monumental qui est Half-Life, et il a rendu Steam pratiquement obligatoire pour Half-Life 2, qui était, ouais. Voilà. Enfin, j'ai découvert, moi, quand j'ai découvert Half-Life premier du nom, piraté, ça va de soi. À l'époque, bravo. J'étais étudiant et c'était la claque monumentale par rapport à ce qu'il faisait. Et il s'est servi effectivement de fait que le jeu, il était novateur sur bien des points et la qualité graphique pour l'époque et notamment l'animation des robots que l'on a au tout début de Half-Life qui était pour grand chose était, je trouve, que la plus petite partie des innovations de ce jeu. Et il s'est servi de ça pour imposer Steam, pratiquement. Ça a pris, et ils se servent de leur avance qui est effectivement monumentale.
Et comment ça se fait qu'il y a autant de jeux? C'est devenu tellement simple de produire des jeux? Enfin, il y a tant de boîtes que ça? Il y a tant de...
Clairement, il y a une grosse avance technologique depuis environ 6 à 7 ans, je dirais, qui permet de développer des jeux beaucoup plus facilement. Déjà le fait que les PC soient devenus beaucoup plus puissants fait que on n'a pas besoin de se battre pour réussir à faire quelque chose. Enfin, j'ai fait des jeux sur Nintendo DS par exemple. Enfin, professionnellement, j'en ai fait qu'un, mais bon. Et sur Nintendo DS, il y a 4 mégaoctets de RAM, il y a un CPU principal à 90 MHz, je crois, ou 70, je sais plus, et un second à 30 MHz, quelque chose comme ça, qui est juste là pour faire la compatibilité avec la Game Boy Advance à la base. Pour réussir à faire quelque chose là-dessus, faut se battre. Il y a des contraintes très lourdes. C'est très dur de faire un jeu là-dessus. Enfin, c'est très dur. Il faut avoir des connaissances suffisantes et il faut se limiter dans son game design, en fait. Enfin, faut réfléchir en fonction des contraintes. C'est absolument plus le cas de nos jours. PowerOmi, honnêtement, j'utilise Unity et ça nous a permis d'avoir beaucoup de liberté, en fait, parce qu'on n'a pas eu à créer de moteur d'animation, on n'a pas eu à créer de moteur de rendu, on n'a pas eu à créer énormément de choses. Et pareil, au niveau du son, c'est pas Unity qui fait le boulot, c'est FMOD, c'est un truc qui existe depuis 15 ans maintenant. Mais
issu de la démo scène.
Exactement, en plus, ouais. D'ailleurs, je sais pas, Wise, c'est... Ouais, non, Wise, c'est issu, c'est l'autre moteur.
C'est Fairlight Technology qui est FMOD. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le F, c'est Fairlight.
C'est le même Fairlight que Fairlight?
Oui, oui.
Ah, faudrait que je regarde ça, ça a l'air trop
bien. Oui, oui.
Et donc le fait qu'il y ait tous ces outils, ça a clairement rendu la création de jeux, donc la puissance des machines aussi, a clairement rendu la création de jeux plus facile. Il y a des très gros hits qui sortent, il y a eu Papers, Please, il y en a eu plein maintenant qui sont sortis, qui sont des gros cartons, qui ont été faits avec Game Maker, qui à la base est un outil de création de jeux qui est apparu peut-être il y a 10 ans, quoi, mais qui était vu comme quelque chose de ridicule. Parce que c'était très faible, c'était un truc qui était pas mal pour apprendre à faire des jeux, mais le truc a évolué et il est toujours facile à utiliser, et il y a plein de gens qui n'ont jamais programmé de leur vie, qui se mettent à utiliser ce truc-là et qui vont beaucoup plus loin que il y a 20 ans, quand on voulait faire un jeu, on apprenait à programmer, on faisait des tutos OpenGL, super, au bout de 2 jours j'ai affiché un triangle. Voilà, là le triangle, ça prend 10 secondes.
D'accord, ok.
Alors, du coup, est-ce que vous avez d'autres jeux en préparation ou d'autres idées de jeux avec Manufacture 43 ou
Les idées, c'est jamais ce qui manque. C'est vraiment le truc, on en a la pelle. Les concrétiser, c'est vraiment la partie la plus dure. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à faire avec PowerMe. Les vendre derrière, c'est encore le plus dur. Donc là, pour l'instant, l'idée, c'est d'essayer d'être rentable avec PowerMe. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tout est orienté vers le portage vers les consoles et essayer de trouver d'autres solutions pour mettre PowerOmi en avant. Si ça tient, si jamais ça venait à rapporter quelque chose, ouais, peut-être on essaierait de faire quelque chose. On a des idées de jeux de voiture en semi-coopération futuriste. Enfin, il y a plein d'idées farfelues dans les cartons.
Alors, il y a peut-être une autre question, Simage ?
Non, désolé.
Tu l'as perdu en route. On va poser la dernière question parce qu'il est déjà 20h10 et qu'il va falloir ranger, rendre l'antenne, tout ça. Est-ce que tu pourrais me citer 3 jeux indépendants français auxquels tu as joué et que tu as vraiment kiffé à mort ?
Je joue plus assez, en fait. C'est ça le truc, c'est quand on fait des jeux vidéo, on se met plus forcément beaucoup à jouer à côté parce qu'on passe déjà nos journées à jouer et à des jeux buggés vu qu'ils sont pas finis. Donc c'est compliqué. Mais des jeux français auxquels j'ai joué et que j'ai kiffé.
Ouais.
Indépendant, t'as dit ?
Indépendant.
Ouais.
Ça fait beaucoup de contraintes.
Non, mais il y en a plein que j'ai vu. Je pourrais en citer plein, mais j'aurais pas forcément joué. J'ai hyper envie de jouer à Fury. J'ai envie de plus jouer à Dead Cells, c'est clair.
Voilà, Dead Cells qui est aussi fait par un studio bordelais qui était spécialisé dans le jeu mobile. Voilà, tu disais hors antenne qui était même un des précurseurs du jeu social et qui a décidé de faire un jeu. On en parlera sûrement sous Linux parce qu'il devrait sortir. Il a été promis sous Linux, sauf que l'Early Access n'est pas encore sous Linux. Mais ils ont averti le monde, ils ont communiqué. Donc on verra.
Mais ils n'utilisent pas Unity, ils utilisent Axe, qui est leur propre langage de programmation. Et ils utilisent des tas de frameworks qui, normalement, sont disponibles sous Linux. Donc, ouais, il n'y a pas trop de raison.
Il me semble que Axe est open source en plus.
Complètement open source, il y a même une fondation Axe.
Il a été utilisé par Kaget, je crois, un logiciel pour faire gestion d'AMAT. On a eu quelqu'un qui est venu une fois nous parler de ça à Jirol.
Mais il est vraiment utilisé partout, en fait. À la base, Axe, c'est le langage créé par Nicolas Canas, un des fondateurs de Motion Twin. Voilà, à l'époque, ils faisaient des jeux en Flash 2 et Flash 2, enfin ActionScript 2. Apparemment, c'était super dégueulasse. Ça le saoulait. Il a créé son propre langage. C'est une espèce de métalangage, en fait, qui génère de l'ActionScript 2. ActionScript 3, qui est sorti, reprend l'essentiel de ce qu'il y a dans Axe, en fait. Et eux, ils ont continué à utiliser leur langage et ils l'ont rendu open source. Enfin, il y a plein de technologies qui sont open source à Motion Twin, de toute façon, je crois. Et maintenant, Nicolas Canas a fondé un autre studio, il est à Shiro Games, qui est aussi un studio bordelais qui fait Northgard, là, qui est sorti hier, ou aujourd'hui, je ne sais plus, et qui est pareil, qui est fait en Axe. Je sais que chez Electronic Arts, il y a des gens qui utilisent Axe, qu'il y a plein de studios de jeux vidéo dans le monde qui utilisent ça. Il y a TiVo, c'est un des 7 top box TV qu'ils utilisent aux US, parce qu'ils n'ont pas trop les box ADSL comme nous, donc eux, ils utilisent ça. Et ça utilise Axe apparemment, c'est vraiment utilisé partout. Quoi. Et pour faire de tout, du web, des jeux, tout.
Donc, Dead Cells.
Dead Cells, Fury. Allez. Mais j'y ai pas joué. Enfin, si, Dead Cells, je crois que j'y ai joué, mais pas beaucoup.
Fury.
Et autre jeu. Fury, donc c'est un jeu montpelliérain de Game Makers. Ça ressemble à un mélange entre un beat'em all et un shoot'em up, sauf qu'il n'y a que des boss. Et donc, c'est un gars qui descend une prison. Étage par étage, et il fait des combats, et la direction artistique est complètement géniale. Le gameplay a l'air très cool aussi, et même s'il y a ce truc que je vois de plus en plus qui me semble pour moi être de la triche, pour moi puriste du shoot'em up, ils ont des dashs qui leur permettent de passer au travers des tirs sans se faire toucher, et du coup, c'est de la triche. Moi, je trouve que c'est de la triche. Et comme troisième jeu, indé français, qu'est-ce que... Oh, j'aurais très... Voilà. Je vais faire de la pub à la place. Il y a Stereden qui est sorti, enfin il y a une nouvelle version de Stereden qui est sortie hier aujourd'hui, Shoot'em Up aussi. Et ils l'ont sorti sur Switch, mais il sort, il me semble qu'il est disponible sous Linux, celui-là. Et donc c'est un shoot'em up roguelike. Lui par contre, j'y ai un peu joué. Et c'est super dur. C'est super dur.
Tu disais qu'il s'appelle ?
Stereden, ça veut dire étoile en breton.
Stereden. Bon, merci beaucoup du coup Daniel. Pour avoir plus d'infos, vous cherchez Power Rumi sur Steam ou sinon powerrumi.net.com. Je vais au .net. Donc powarumi.com ou sinon vous cherchez Manufacture 43 sur tout bon moteur de recherche qui se respecte et vous allez trouver ça facilement. Merci beaucoup. Peut-être à une prochaine fois. En tout cas, tu es le bienvenu ici. Voilà pour le prochain jeu.
Avec joie.
Nous...
Si grâce à Radio Rigirol, il a eu 3 acheteurs de plus du jeu.
S'il vous plaît.
Il reviendra que dans cette condition-là. On a dit 3.
Ça marche. 3. Je les compte.
Ouais.
Mais il n'y a pas écrit s'ils écoutent Radio Rigirol.
Non, mais c'est si d'ici samedi soir, tu as eu 3
si
achats.
Si j'ai 3 ventes en France, c'est bon.
D'ici, voilà, c'est ça.
Non, francophone. On va compter les Belges et les Canadiens.
Nous, en tout cas, on se retrouvera sur Radio Girol en direct le jeudi 12. En attendant, merci aux auditeurs aussi d'ondes courtes qui nous écouteront, mais pas en direct. Et aux auditeurs de Radio Station Essence, pardon, qui eux nous écoutent en direct. Et on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous laisse sur un... Alors, c'est pas habituel, mais on n'a pas eu le temps de diffuser nos 3 morceaux. On vous laisse avec le She-Wolf Beast sur Radio Girol.
Radio Station Essence, la radio à contresens.
steps. Laughing at the postulates you realize. Darkens of dreams discovers stress. Chipper brothers reveal kiss.